Ma Charlize à la une dans Le Monde aujourd'hui, il va être question de géopolitique mondiale avec un invité pour le moins connaisseur en la matière.
Eh oui, ce matin je suis ravie de recevoir Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Frédéric Ancel, géopolitologue, vous sortez un nouvel ouvrage qui s'intitule « Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grandes ce monde à l'usage de tous » aux éditions Autrement. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord l'attitude de Vladimir Poutine qui est passé de tsar se prenant pour le chef du monde, si j'ose dire, à pauvre victime des méchants Ukrainiens? C'est une bonne stratégie ça?
Alors, en tout cas, c'est l'une des deux stratégies possibles en temps de guerre, en termes de propagande. Vous avez deux dimensions dans la propagande. La première, c'est la dimension triomphaliste. Ne vous inquiétez pas, chers concitoyens russes, tout se passe bien, tout est sous contrôle. Même les retraits ne sont que tactiques, nous finirons par l'emporter. Tout ce que disent l'autre, tout ce que disent les autres, c'est de la propagande. Et puis, il y a la deuxième dimension qui est plus rare, hein. La dimension victimiste de la propagande, consistant plutôt à dire l'intégralité des Occidentaux, et notamment l'OTAN, est contre nous. Nous sommes seuls à lutter pour nos droits. D'ailleurs, regardez, ils sont tellement pervers qu'ils touchent même ma personne sur le Kremlin via des drones afin de vous toucher, vous tous, chers compatriotes. Et par conséquent, il faut que nous serrions les coudes. On est plutôt dans cette deuxième dimension. Donc, vous avez raison. Alors, Maître Dumont, non, il n'a jamais voulu, mais enfin, en tout cas, la réappropriation d'une forme d'empire tsariste, oui, ça c'était sans, et c'est sans aucun doute, encore aujourd'hui, son corpus idéologique et sa stratégie et son objectif principaux, mais on adopte plutôt du côté russe ces 14-15 derniers mois de relatives défaites, en tout cas depuis l'été dernier, ça c'est sûr, cette deuxième dimension que j'évoquais il y a un instant, une dimension plutôt victimiste dans la propagande.
Alors, l'Europe se retrouve un petit peu plus unie qu'avant la guerre en Ukraine. Est-ce que ça lui redonne un petit peu de force en termes de géopolitique sur la scène mondiale, Frédéric?
Alors, je vous dirais que l'Europe se trouve un peu plus unie. Alors oui, sauf le cas hongrois qui est un peu à part, mais l'Europe est unie, oui, c'est vrai, mais toujours dans ce qu'elle sait faire et dans ce pourquoi elle existe. Je veux dire par là que le traité de Rome de 57 ne prévoyait en aucun cas de dimension politique, autrement dit stratégique et militaire. Pas non plus d'ailleurs Maastricht en 92. Donc le volet politique de l'Union européenne est extrêmement faible, alors que le volet économique, technologique, normatif, celui d'ailleurs qui a très bien fonctionné, lui est important. Alors le problème, c'est qu'en temps de guerre, vous ne pouvez pas actionner votre deuxième levier puisqu'il est minuscule. Donc je vous dirais à la fois oui et non. Oui, parce que pour la première fois, on a effectivement une réaction à la fois massive, instantanée, quasi unanime de l'Europe. Bon, très bien, formidable. Mais c'est plutôt l'OTAN qui s'est renforcée depuis le début de la guerre que l'Europe. Hein, puisqu'encore une fois, on est dans une dimension militaire que n'assument toujours pas les Européens.
La Chine est de plus en plus présente partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient. Frédéric, est-ce que c'est dangereux pour Israël ou c'est surtout pour contrer les États-Unis?
Alors, pour contrer les États-Unis, ça c'est sûr. Ça c'est l'objectif de affirmer, assumer, dit, redit de la Chine et de devenir ou redevenir, comme ils le disent, la première puissance mondiale pour le centième anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, hein, 1er octobre 48. Donc ça, oui, les États-Unis sont aujourd'hui le grand rival, c'est vrai, mais pas seulement au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en réalité, partout, les Chinois peuvent s'implanter, et pas seulement face aux Américains, mais aussi pour faire du business de manière beaucoup plus prosaïque, en quelque sorte. Ils le font. Pour Israël, ce n'est pas un danger dans la mesure où Israël ne se laisse pas, croquer une partie de sa souveraineté à l'africaine. Hein. Tant que les Israéliens ne laissent pas la Chine investir, et pour l'instant, bien sûr, Israël ne le fait pas, investir lourdement dans des secteurs stratégiques. Voilà. Donc je dirais que tant qu'il y a une simple et classique augmentation du volume et de la valeur des échanges entre les deux pays, ce qui est le cas aujourd'hui, non, la Chine n'est pas un danger pour Israël.
Et cette nouvelle alliance entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, en revanche, c'est un vrai danger pour Israël ?
Non, attention, ce n'est absolument pas une alliance. On est passé d'un état techniquement de guerre entre les deux pays, à l'absence d'un état de guerre. Ce n'est pas ce que j'appelle une alliance. Hein. Donc il ne faut absolument pas galvauder ce terme qui est utilisé de manière beaucoup trop abusif, et certaines, mais notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On est juste sur le retour à des relations diplomatiques minimales. Donc c'est pas du tout une alliance. Et par ailleurs, je pense que Israël ne correspond pas à ce, n'intègre pas ce schéma. Je pense que les Saoudiens l'ont fait parce que ils ne toléraient plus, ou MBS, enfin le prince héritier ne voulait plus, ne pouvait plus tolérer politiquement et sans doute budgétairement la désastreuse guerre qu'il mène au Yémen depuis maintenant 2017 et qui est perdue pour les Saoudiens. Or, pour faire cesser les tirs des Houthis, donc les rebelles chiites pro-iraniens, bah évidemment, il faut s'entendre avec Téhéran. Bon, donc je pense pas qu'Israël soit réellement concerné. En tout cas, ça n'a pas été le moteur de la prise de décision de part et d'autre, me semble-t-il.
Et quel rôle jouent actuellement les États du Golfe dans cette nouvelle dynamique régionale, Frédéric ?
Alors, ils sont de nature différente, hein, ces États, et plus exactement, leurs politiques sont de nature différente. Si vous prenez le cas très intéressant des Émirats arabes unis, qui sont la puissance montante de la péninsule, là, on a une alliance complètement assumée, décomplexée avec Israël. Alors, alors là, pour le coup, vous pourriez parler d'alliance. Bon, c'est vrai avec Bahreïn, bon, qui est un confetti quasi voisin. Pour l'Arabie saoudite, c'est un petit peu différent, puisque les Saoudiens recueillent les fruits des accords d'Abraham qu'elle a autorisé, cette Arabie saoudite, il y a 3 ans et demi, mais sans en payer le prix. C'est-à-dire sans recevoir pour l'instant un riad d'ambassadeurs et de drapeaux israéliens, ce qui est assez subtilement joué d'ailleurs, je dois dire. Bon. Après, le Qatar, c'est un cas à part, qui a toujours joué la politique du pire dans la région, me semble-t-il, qui soutient toujours les frères musulmans et accessoirement le Hamas. Bon. Je vous dirais que dans la région, aujourd'hui, on a affaire à une forme d'apaisement voulu par MBS, simplement parce que l'Arabie saoudite se prépare à l'après-pétrole. Et qu'elle a besoin budgétairement, elle dont l'économie est quand même extrêmement fragile et fragilisée, hein, l'Arabie saoudite tente de créer les conditions d'un apaisement régional, ce qui encore est plutôt positif, hein, y compris pour Israël.
Et ce retour de la Syrie et de Bachar el-Assad dans le giron de la Ligue arabe, c'est plutôt une catastrophe pour la région ?
C'est une catastrophe morale, comme malheureusement on en a connu et on en connaîtra, hélas, parce que la géopolitique est ainsi faite. Alors pas que de cela, heureusement, mais vous savez, les États n'ont que des intérêts, comme disait Hegel. Nietzsche allait plus loin, disait que les États étaient les plus froids des monstres froids. Alors je tempérerai ça, parce que les démocraties notamment sont moins monstres froids que les États autoritaires. Mais enfin, de manière générale, ça signifie que malheureusement, dans les relations internationales, le bien et le mal n'existent pas, et que ce sont essentiellement les intérêts bien compris qui prédominent. En tout cas, les variables de prise de décision sont frappées infiniment plus au coin des intérêts, alors bien compris ou pas d'ailleurs, qu'au coin de la morale et de l'éthique. Bachar el-Assad est aujourd'hui l'un des pires, sinon le pire criminel encore au pouvoir sur la planète. Bon. Et effectivement, il est réintégré, alors pas partout, mais dans une partie du monde arabe, alors pour plein de raisons, qui seraient trop long de... Enfin, pour des raisons, encore une fois, très très prosaïques, hein, qui n'ont rien à voir avec, pour le coup, avec Israël. Donc c'est une catastrophe morale, c'est pas une catastrophe géopolitique, parce que la Syrie ne pèse pratiquement plus rien.
Et ma dernière question, Frédéric Ancel, on entend parler de diplomatie néo-réaliste en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, il s'agirait de maintenir un regard perçant et lucide sur les réalités du monde, même lorsqu'elles sont gênantes, hein, et notamment lorsqu'on doit continuer à faire du business et à faire de la diplomatie avec des États dont les valeurs ne nous plaisent pas, mais tout en conservant un équilibre. C'est-à-dire tout en prônant la défense de nos propres valeurs démocratiques. Je suis, je dois vous dire, très favorable. Hein, c'est, moi, je l'appelle pas comme ça, mais très favorable à cet équilibre géopolitique. Hein. Donc, ni le cynisme qui se jette des atours valorisants de la géopolitique, mais qui en réalité n'est que du cynisme, la réelle politique avec le cas prussien qui va bien avec derrière, très viriliste, que je déteste et que je combats, ni de l'autre côté, une espèce de, alors je le dis avec beaucoup d'amitié, de kouchnerisme, c'est-à-dire de droit de l'homisme, qui malheureusement, je dis bien malheureusement, n'est simplement pas possible, ni matériellement, ni moralement. Donc je pense que l'équilibre, c'est ce qui doit prévaloir dans les relations internationales.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre nouvel ouvrage qui vient de paraître s'appelle « Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous ». C'est aux éditions Autrement et on vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous, merci beaucoup.